parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler
c'est
en là, plus.
C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zephyr Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozeph.fr.
Bonjour, ici la radio Studio Zeph. Nous émettons depuis le lycée Horticole de Blois. Je suis Samuel, accompagné de Lilou.
Nous sommes les animateurs de votre émission.
Nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux accrochés à vos postes radio pour cette émission qui apporte un plus à votre quotidien.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse écouter cette merveilleuse musique. C'est parti.
Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet essentiel et de plus en plus présent dans nos vies, l'écologie. Passant par la perte de biodiversité, l'écologie est devenue une question cruciale. Et au-delà des problèmes, il y a des solutions.
L'écologie, c'est apprendre à cohabiter avec notre planète, à comprendre les écosystèmes qui nous entourent et à trouver des solutions pour un avenir durable.
Alors, qu'est-ce que chacun peut faire ? Comment repenser nos modes de vie pour réduire notre empreinte écologique ?
Nous allons en parler aujourd'hui et peut-être trouver ensemble des pistes pour bâtir un monde plus respectueux de l'environnement.
Nous allons commencer par le groupe Leandro, Luna, Rose et Inès qui vont nous parler de la pollution et des dégâts sur les animaux grâce à un micro-trottoir.
Bonjour, nous allons vous parler de l'impact des humains sur les ours polaires. Tout d'abord, c'est quoi un ours polaire, Rose ?
C'est un mammifère vivant dans la région du pôle Nord. C'est le cousin de l'ours brun et le plus grand carnivore terrestre. Mais n'est-il pas menacé en ce moment, Inès ?
Oui, malheureusement, il est aujourd'hui gravement menacé par le changement climatique et la pollution environnementale. Mais y a-t-il réellement besoin de la banquise pour vivre, Leandro ?
Oui, c'est ce milieu, lui, où il est vital. C'est là où il chasse, se repose et se reproduise. Sa vie est donc liée à la banquise. Maintenant, nous allons écouter les opinions des personnes prises dans la rue. Pensez-vous que les ours polaires sont menacés ?
J'irais que oui, à cause du réchauffement climatique.
Ah oui, rien qu'avec les glaciers qui diminuent de plus en plus, et puis ils n'ont plus de nourriture, on ne va plus avoir de nourriture, on va plus avoir... C'est, je pense que c'est en voie de disparition, et après, pour moi, après... Mais je pense que si ça continue comme ça, la planète va en prendre un coup, puis les ours polaires aussi, je pense. Ouais.
Oui, enfin de ce qu'on voit, mais est-ce que c'est une réalité, je sais pas, est-ce que c'est abusé, je sais pas. Mais je pense que oui, ça, quand même, s'il y a un problème, même s'il est abusé, faut quand même agir. Donc pour moi, oui, je pense qu'ils sont en danger.
Vraisemblablement, si vous nous posez la question. Alors, je pense pas qu'ils soient chassés, mais s'il y a une fonte des glaces, après, ils sont peut-être pas forcément menacés. Là-dessus, je peux pas franchement vous répondre.
Mais écoutez, a priori, il est dit que l'espace où ils vivent se réduit. Mais je pense, moi, que chaque animal a une faculté de s'adapter. Et que son univers soit menacé, je pense qu'effectivement, il faut faire attention, mais l'animal arrivera à trouver d'autres solutions. Donc la menace, je ne pense pas qu'elle soit si grande que cela.
Bah, je pense que c'est dû au fait qu'il y a la fonte des glaciers, donc ils perdent un peu de leur habitat naturel, quoi. Voilà, c'est ce que je pense.
Est-ce que pour vous, on peut améliorer la vie des ours polaires ? Si oui, pourquoi ?
Bah oui. Dans la mesure où, en fin de compte, ils sont tributaires du réchauffement climatique. Donc, c'est à nous de il faudrait faire diminuer la température dans l'atmosphère pour éviter que la glace fonde sur les pôles. Donc, ça, c'est un peu dans notre ressort, quoi. On doit pouvoir faire quelque chose, mais maintenant.
Voilà. Pour résumer tout ça, les ours polaires sont une espèce en voie d'extinction. La cause sont les fontes de glace, qui est très vitale pour les ours.
En hiver, ils n'hibernent pas, mais errent sur la banquise en quête de proie, à l'exception des femelles.
La première menace de l'ours polaire est la perte de son habitat liée au changement climatique et à la fonte des glaces. Toutes ces infos ont été prises sur le site du muséum Nalt East Naturel.
J'espère que notre sujet et micro-trottoir sur les ours polaires vous a plu. On vous dit au revoir et faisez attention à l'environnement, s'il vous plaît, en pensant aux conséquences. C'était Leandro, Luna, Rose et Inès qui représentaient l'impact des humains sur les ours polaires.
Poursuivons par le groupe Marine et Annelise sur le rôle des animaux dans l'écosystème.
Dans un monde où la nature est de plus en plus menacée, le rôle des animaux dans notre écosystème est souvent négligé. Les pesticides utilisés massivement dans l'agriculture ont des effets dévastateurs sur les populations animales. Les abeilles sont essentielles à la pollinisation, qui sont en déclin. Leur disparition menace non seulement les plantes, mais aussi les animaux qui en dépendent pour se nourrir. Ce cycle infernal de destruction est insupportable. De nombreuses espèces animales souffrent d'intoxication due aux résidus de pesticides dans leurs habitats. Les oiseaux, les insectes et même les mammifères subissent des pertes massives. Les chiffres sont alarmants puisque des millions d'animaux meurent chaque année à cause de l'exposition à ces substances toxiques. L'abandon des animaux domestiques comme les chiens et les chats est un phénomène en constante augmentation. Ces animaux étaient autrefois des compagnons fidèles qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes du jour au lendemain, errant dans les rues, exposés à la faim et aux maladies. Leur souffrance est insupportable et témoigne d'un manque de responsabilité de la part des humains. L'abandon contribue à la surpopulation animale, ce qui entraîne des conditions de vie précaires dans les refuges. Les animaux abandonnés sont souvent porteurs de maladies et cela complique encore plus leur réhabilitation. Cette situation est un reflet de notre incapacité à protéger ceux qui dépendent de nous. La combinaison de l'utilisation de pesticides et à l'abandon des animaux a des répercussions sur l'équilibre des écosystèmes. Les chaînes alimentaires sont perturbées et la biodiversité s'effondre. Les animaux, en tant que régulateurs de la nature, voient leur rôle compris de ce qui entraîne des conséquences dramatiques pour l'environnement. Si nous continuons sur cette voie, l'avenir des animaux et de notre planète est en péril. La perte de biodiversité menace non seulement les espèces animales, mais aussi notre propre survie. Les crises environnementales, telles que les changements climatiques, sont exacerbées par notre négligence envers les animaux et leurs habitats.
En conclusion, les défis insupportables auxquels les animaux sont confrontés en raison de l'utilisation de pesticides, de l'abandon et de la destruction de leur habitat, il est impératif d'agir pour protéger ces êtres vivants qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. La sensibilisation et l'éducation sont cruciales pour changer les mentalités et promouvoir des pratiques durables. Nous avons la responsabilité de protéger les animaux et de garantir un avenir où la biodiversité et la santé de notre planète sont préservées. La lutte pour la justice animale et l'environnement doit être une priorité collective, car notre avenir en dépend.
Merci les filles. Après avoir vu l'importance des animaux, passons maintenant au groupe de Lou, Jade, Elisea et Noéline sur le thème de la migration des animaux.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi ça m'a marqué. Les invasions de criquets pèlerins en 2020-2021. Je regardais un reportage qui est très bien d'ailleurs, Notre Planète 2, et l'un des épisodes était sur les invasions de ces fameux insectes. C'était très impressionnant à voir et très intimidant. Donc j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Déjà, les criquets pèlerins sont des insectes solitaires, oui, mais pas lors des migrations et de l'accouplement, bien évidemment. Un essaim peut occuper jusqu'à 1200 km². Ils mangent tout sur leur passage, ce qui est un vrai problème économique et alimentaire, évidemment. Sachant que ces petites merveilles savent non seulement sauter, ce qui est déjà bien assez effrayant comme ça, mais finissent aussi par voler. On s'approche du cauchemar, ils ont donc réussi à survoler la mer Rouge dans ces années-là, pour dire.
Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux migrateurs. Les insectes, criquets pèlerins, papillons Danoïs plexippus. Pour changer les insectes, passons aux animaux marins par exemple. Les tortues marines vivent au milieu de l'océan et retournent pondre sur leur plage de naissance. Les poissons migrateurs sont classés selon le type de milieu aquatique où ils résident et migrent. Un poisson océanodrome migre en restant en eau de mer, exemple de la morue, et un poisson potamodrome migre en restant en eau douce, alors qu'un poisson diadrome vit alternativement en eau de mer et en eau douce, par exemple du saumon. La plupart des oiseaux de zone nordique ou très chaude sont des migrateurs, exemple hirondelle. Les mammifères sont assez rares. Chez les mammifères, la baleine est un cas particulier. Les migrateurs sont pour partie liés à l'apparition de la sécheresse ou du moins à la raréfaction de l'herbe chez les herbivores, par exemple le bison. Elle peut aussi résulter de la profusion de fruits à la disposition à certaines périodes de l'année. Comme le montre le rassemblement important de roussettes de palmiers qui effectue annuellement le périple Congo-Zambie.
L'immigration animale, un spectacle impressionnant et vital pour de nombreuses espèces, sont aujourd'hui menacées par plusieurs facteurs, principalement le réchauffement climatique, les changements météorologiques et la pollution. Chacun de ces éléments contribue à un bouleversement des schémas migratoires traditionnels, entraînant des conséquences graves pour l'écologie. Les variations climatiques rendent les conditions météorologiques moins prévisibles, des tempêtes inattendues ou des périodes de sécheresse peuvent décimer des populations d'animaux en migration, rendant les routes risquées. La pollution, en particulier celle des plastiques, représente une menace croissante pour les espèces migratrices. Les oiseaux, par exemple, ingèrent souvent des déchets plastiques en pensant qu'il s'agit de nourriture. Cette confusion entraîne des problèmes de santé majeurs, susceptibles de leur capacité à se reproduire et à survivre. De plus, les proies et les prédateurs se retrouvent désynchronisés, ce qui peut créer un déséquilibre alimentaire.
Quasiment tous les animaux doivent migrer pour trouver de la nourriture ou encore se reproduire. Certains migrent par l'océan, d'autres par les airs ou encore par la terre, et d'autres à vol d'oiseaux. La migration est très importante pour le cycle des choses, alors ne la perturbons pas.
Continuons avec le groupe Ilana, Constance et Agathe qui nous parleront des animaux en voie d'extinction.
On va vous parler de l'extinction animalière, ces animaux que les générations prochaines ne connaîtront que de noms et d'images trouvés sur réseau, ceux qui n'ont pas eu la vie facile et qui ne l'auront sûrement jamais à cause de nos activités et de nous. On va vous passer les extraits de nos interviews dès maintenant.
Quelles sont les causes de l'extinction des animaux ?
Je pense que ça vient du réchauffement climatique.
Nous avons noté sur les c'était à cause des activités humaines, agricoles comme industrielles. Combien d'espèces sont éteintes ?
Plusieurs centaines, voire même un millier potentiellement.
Combien de vertébrés comptent ces espèces ?
500, facilement.
Sur un siècle, on a pu compter 2 espèces par an, soit 200 vertébrés en tout. Par exemple, les dodos, les tigres de Tasmanie, les bouquetins des Pyrénées et les crapauds dorés. Troisième question, est-ce que le trafic d'animaux rapporte plus que le trafic de drogue, d'après toi?
Je pense, ouais. Facilement.
Oui. Ça peut aller entre 8 et 10 milliards de dollars. Quatrième question, combien reste-t-il de guépards dans le monde, d'après toi?
Pas forcément beaucoup, je dirais une centaine, peut-être 200.
Beaucoup plus?
Non. 500?
Alors, on y était plus proche, mais c'était un peu en dessous. Aujourd'hui, on compte plus que 7100 guépards. On est passé de 100 000 à 7000. Cinquième et dernière question. Quels sont les animaux les plus en danger d'extinction?
Cite-moi les trois premiers qui peuvent potentiellement te venir en tête. L'ours polaire, le panda et le manchot.
Il me semble qu'ils en font partie, mais j'ai noté les trois premiers que j'ai pu constater. Les tigres, on n'en compte que 3200 individus. Les rhinocéros d'Afrique, avec 25 000 individus, avec moins de 25 000 individus. Et les éléphants d'Afrique, avec 500 000.
Alors, l'extinction des animaux, elle est due à la disparition de leur environnement, de leur milieu de vie. Elle est due aussi au trafic et braconnage que peuvent faire donc les êtres humains. Ça peut être dû aussi à la pollution. Et puis, pollution atmosphérique et pollution par les pesticides. Et puis, certainement, d'autres raisons, là, mais qui ne me viennent pas forcément tout de suite. Alors, combien d'espèces sont éteintes? J'en sais strictement rien. Combien de vertébrés? J'en sais strictement rien. Par contre, je sais qu'il y a 14% des espèces d'oiseaux qui ont disparu. Et la plupart disparaissent dernièrement. Et je sais aussi que là, en 50 ans, on a, je crois, la possibilité de perdre jusqu'à 2000 espèces animales dans les 50 ans à venir. Alors, moi, il me semblait que les éléphants d'Afrique, le degré d'extinction actuellement baissait.
Oui, mais ce sont les dernières informations que nous avons pu avoir sur des informations de braconnage. Nous avons cité des espèces en rapport avec le braconnage.
Pour conclure le sujet, en France, l'extinction menace plus de 2400 espèces. Dans le monde, plus de 15 000 espèces sont menacées, dont 41% des amphibiens et 33% des coraux constructeurs de récifs.
La France est à la 10e place des pays abritant le plus d'espèces menacées, animaux et végétaux confondus, soit 1606 espèces. Tous les ans, plus de 26 000 espèces animales et végétales disparaissent de la surface de la Terre, et d'ici à 2050, 15 à 37% de toute la biodiversité mondiale devrait avoir disparu.
D'ailleurs, les orang-outans font partie des animaux en voie d'extinction. Passons au groupe Noam, June et Noam, qui nous ont préparé une interview sur les orang-outans.
Aujourd'hui, on va vous parler de la déforestation des habitats des orang-outans. Mais tout d'abord, June, dis-moi, est-ce que tu manges du Nutella?
Non, pas du tout, et toi?
Non, j'en mange pas non plus. Mais je crois que Noam en mange.
Oui, j'en mange un peu. Mais pourquoi?
Car le Nutella comporte de l'huile de palme. Et l'huile de palme est dévastatrice pour les habitats des orang-outans. Voici nos interviews.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la déforestation des habitats des orang-outans pour voir votre point de vue. Tout d'abord, savez-vous pourquoi les orang-outans sont-ils en voie d'extinction?
Il me semble qu'ils sont chassés, du moins leur territoire est chassé. C'est-à-dire que la déforestation fait que le territoire des orang-outans diminue, donc beaucoup moins de bêtes.
Et bien parce qu'il y a la déforestation.
À cause de l'huile de palme, parce qu'on est obligé de les tuer. À cause du Nutella, quoi.
Parce qu'on détruit leur habitat pour pouvoir en faire des productions agricoles, peut-être.
À cause de l'huile de palme. Enfin, les gens, ils prennent les arbres pour faire de l'huile de palme. Du coup, il n'y a plus d'habitat pour les orang-outans.
À votre avis, pourquoi la forêt de Sumatra est-elle déforestée?
Déjà, pour une chose importante, c'est le bois. Et après, pour agrandir aussi leurs terres pour l'agriculture intense.
Je ne sais pas, ils doivent s'en servir pour mettre d'autres cultures. Mais sincèrement, je ne sais pas, mais c'est ma réponse.
Alors ça, j'en ai aucune idée, je vous avoue que là, j'en ai aucune idée, mais bon, sûrement pour récolter le bois et puis en faire quelque chose, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout.
Une culture vivrière ou bien une culture ornementale ? Des fleurs coupées ou bien de l'huile de palme, des ananas, des... Et est-ce que le bois est intéressant par lui-même déjà ?
La récolte du bois est importante. Après, on replante aussi du coup pour reproduire de l'huile de palme et aussi du soja.
Parce qu'en Indonésie, il y a de plus en plus de tourisme et je crois qu'ils veulent tout détruire, les forêts, etc. pour le tourisme et les habitations, je sais pas, les activités, de manière générale.
Pour planter l'huile de palme.
D'après moi, je pense on les dérange dans l'air. On les laisse dans les petits coins. Souvent, c'est des animaux sauvages, ils ont besoin d'une vie sauvage. Donc, dès qu'ils se mélangent avec la civilisation, ils sont... c'est pas leur milieu. Donc, ça arrive à dégrader leur milieu. Donc, ça joue sur leur mode de vie, ça joue sur tout ce qui est de l'environnement.
Que se passerait-il si les orang-outans disparaissaient de cette terre ?
Bah, si les orang-outans disparaissent, c'est encore une variété... Qui va disparaître, donc notre diversité va encore diminuer, va être beaucoup moins grande, et on a besoin de diversité pour survivre.
La biodiversité en moins, animaux en moins.
Bien, si disparaître, c'est une espèce rare qui disparaîtra, et voilà, ça fait partie de l'équilibre qui va continuer à oui, à disparaître, oui. Je cherche mon mot, là.
Bah, ce serait triste. pour l'équilibre de la nature, la faune, la flore, c'est pas bon, évidemment.
Bah, sûrement qu'il y a un déséquilibre de la nature, probablement. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas expert en orang-outan, mais probablement un déséquilibre. Donc, c'est dommage. Et ces animaux-là, je pense qu'ils sont importants dans ces forêts, donc il ne faut pas détruire leur habitat, quoi.
Bah, en soi, rien, pas plus que si les humains disparaissaient de cette terre. C'est-à-dire que l'extinction des espèces, ça fait partie de la vie sur Terre depuis les dinosaures, qui ont quand même tous disparu. La question, c'est comment est-ce que, en tant que responsable d'une partie de l'extinction des espèces sur Terre, est-ce qu'on accepte ou pas d'être une espèce tueuse ou pas ? C'est une question philosophique bien plus que toute autre chose, en fait.
Mais ça serait quand même dommage de perdre encore une espèce en termes de biodiversité. Et puis je pense que si on détruit son habitat, on détruit d'autres espèces en même temps. Qu'est-ce que j'entends dans ta question ? Est-ce qu'on est prêt à adopter des orang-outans ou lycéorticoles ? Non ? En tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir, tu crois pas ?
Pour finir, avez-vous réduit votre consommation d'huile de palme depuis qu'on entend parler de la disparition des orang-outans ?
Oui, bien sûr, je mange même plus de Nutella.
Là, on peut dire oui.
On n'en prend pas du tout.
Là, on peut dire oui ou pas du tout. Pas. Ouais, ouais. Non. Je pense pas systématiquement aux orang-outans, mais quand même.
Je ne consomme pas d'huile de palme. Donc tout ce qui est huile de palme, je ne consomme pas. Donc je regarde les étiquettes. Donc effectivement, c'est pas moi qui vais détruire les forêts pour que les orang-outans ne puissent pas vivre. Voilà, donc je ne consomme pas cette huile.
Alors moi, ça fait 10 ans que, par exemple, je mange plus d'huile de palme. À cause notamment de l'agriculture intensive et monoculture qui détruit complètement les forêts sur l'île de Java.
Oui, j'essaye de plus prendre le Nutella, notamment, et les autres produits qui y ressemblent, de regarder qu'il n'y a pas d'huile de palme. Mais après, je pense qu'en vrai, il y a plein de produits dans lesquels on ne sait pas qu'il y a de l'huile de palme, mais on les prend quand même. Donc ça, il faudrait faire gaffe, ouais.
Des huiles de palme, bon, tu sais, nous, en Afrique, on mange beaucoup les huiles de palme. Et quand tu en as envie, tu trouves dans le magasin, tu es obligé d'acheter. Donc le problème de ça, c'est à la source. Il faut interdire d'abord à ceux qui les enlèvent pour l'amener en ville. C'est là le problème. Voilà, le gros problème d'abord qu'il faut traiter, c'est par rapport à la source.
C'est plutôt l'effet poumon vert de ces forêts qu'on détruit en masse. Alors c'est peut-être une vision plus court terme sur l'humain, mais... on a besoin de ces grandes forêts. En tout cas, aujourd'hui, elles jouent le rôle d'un poumon et d'un régulateur climatique. Alors, il faut préserver la forêt à tout prix. Et toutes les espèces.
Grâce à ces interviews, j'espère que tu vas baisser ta consommation d'huile de palme.
Oui, je ferai plus attention à ma consommation d'huile de palme pour la déforestation.
On vous dit au revoir et passez une bonne journée.
Pour continuer dans le vif de notre sujet, on va laisser la parole à Julie et Talicia qui vont nous parler de la pollution des océans.
Oui, nous allons vous parler de la pollution des océans, qui est un cas encore très fréquent, en répondant à quelques questions que beaucoup se posent, en ayant utilisé quelques sources comme WWF, gouv.fr et FNE.
En premier, quel est le pays qui pollue le plus ?
Le pays polluant le plus les océans se trouve en Asie, ce sont les Philippines, car il génère environ 356 371 tonnes de déchets plastiques. En premier lieu parce que les Philippines sont un archipel de plus de 7000 îles avec un littoral de 36 289 km et 4800 rivières émettrices de plastique, et où la majorité de la population vit en bordure côtière. C'est des 10 premiers fleuves de plastique qui sont des Philippines. Rien que le fleuve passif aux Philippines, il est à cause de 6,4% des pollutions. Le second facteur est le faible développement des infrastructures adaptées. Les déchets accumulés sont soit brûlés dans l'air, soit enfouis ou repoussés vers l'océan.
Est-ce que les transports maritimes polluent ?
Oui, les transports maritimes sont une grande cause de pollution des océans. On estime que le transport maritime était en 2012 égal à 2,2% de taux de pollution dû au pétrole polluant dans l'air et l'océan. Il y a aussi quand les bateaux se crachent, il y a un phénomène appelé la marée noire, dû à tout le pétrole du bateau qui se propage dans l'eau, ce qui va aussi grandement empoisonner l'eau et les animaux qui vivent aux alentours. Les bateaux provoquent aussi une pollution acoustique, ce qui va déranger les poissons et autres créatures marines au niveau sonore. Et j'ai moi aussi une question qui est, y aura-t-il plus de déchets plastiques dans les océans à l'avenir ?
Selon moi, oui. Au rythme actuel, la pollution des océans, qui est de 11 millions de tonnes par an, risque de quadrupler d'ici 2050, car nous utilisons de plus en plus de plastique et de matières technologiques polluantes. L'augmentation de la pollution des océans sera un danger pour l'écosystème environnant, pour plusieurs milliers d'espèces aussi bien marines que terrestres.
Comme dernière question, nous pouvons poser, comment protéger les océans de la pollution à l'avenir ?
Alors, pour protéger les océans de la pollution, on peut réduire la consommation de plastique. Nous pouvons aussi faire beaucoup de choses, comme par exemple limiter l'utilisation de bouteilles en plastique et en prendre des recyclables, ou bien utiliser des gourdes, par exemple. On peut aussi éviter les sacs en plastique pour prendre à la place des sacs en tissu, ce qui est beaucoup plus écolo. Et nous pouvons aussi opter pour des produits sans emballage plastique qui seront à la place dans du carton ou du papier. Et recycler correctement pourrait aussi être utile pour que les déchets ne se retrouvent pas dans les océans. Aussi les nettoyages de plages qui peuvent être faits, ce qui permet d'éviter les déchets, par exemple les tortues, ils peuvent les manger sans faire exprès ou parce qu'ils pensent que c'est de la nourriture et en fait non. Conclusion, les océans sont pollués par les hommes, les transports maritimes et les déchets plastiques contaminés. Et les déchets plastiques contaminent de plus en plus les océans d'année en année. Et il faudrait penser à arrêter la pollution.
Après avoir parlé des océans, ce sont Julie, Nathan, Théo et Anaëlle qui vont approfondir ce sujet en parlant particulièrement des tortues.
On va vous parler des tortues qui peuplent nos océans depuis 150 millions d'années. Elles ont côtoyé les dinosaures et surmonté tous les risques climatologiques. Pourtant, aujourd'hui, 6 des 7 espèces vivantes sont considérées comme menacées ou gravement menacées.
Je vous laisse découvrir ce que les gens pensent du sujet avec le micro-trottoir.
Que pensez-vous de la pollution envers les tortues marines ?
En fait, pas grand-chose. Je ne m'y suis pas intéressée pour ce qui est... Donc voilà.
La pollution envers les tortues ?
Ouais.
C'est mal parce qu'elles sont quand même nécessaires à l'écosystème.
Non mais bon, disons que la pollution en règle générale, on ne peut pas être pour, hein, ça c'est évident. Hein. Mais c'est vrai que vous nous interrogez sur un sujet très pointu quand même.
Combien de tortues marines meurent dues à la pollution par année ?
Plusieurs centaines ?
Oh, je sais pas. Je sais pas. Dites-le moi.
En milliers ? On n'a pas bossé le sujet par contre.
Moi je dirais 30 000.
C'est un millier de tortues marines.
Ah, un millier, bon. J'étais un peu au-dessus.
Quelle est la première cause de pollution, enfin, de mort des tortues, on va dire,
à cause de les, bah dans, les sacs en plastique qu'ils mettent dans la mer. Hein.
Ouais. Bah et oui. Aussi les substances, pétrole, etc. Voilà.
Puis les gens, les usines qui se versent aussi dans la mer et tout ça, hein, c'est pas bon hein, pour eux.
Le plastique dans les océans.
La pollution industrielle.
Selon vous, quelle est la solution pour arrêter la disparition des tortues marines ?
Mettre des amendes aux gens qui mettent les poubelles par terre et partout.
Arrêter la pollution des océans.
Trier ses déchets.
On peut déjà réduire les déchets à la source. Et puis essayer de faire en sorte que nos déchets n'aillent pas in fine, parce que tout va dans la mer. Donc essayer effectivement de trouver des solutions pour filtrer les déchets avant qu'ils arrivent dans l'eau.
Pour vous, depuis quand les tortues existent ?
Oh, il y a longtemps. Bien avant que je sois née. Hein.
Oh, oui, il y a longtemps. Hein. Oui.
Avant nous, bien avant nous, depuis les dinosaures.
Ah bah c'est les premiers dinosaures, non ? C'est des dinosaures.
Comme les poules. Ouais. On a... les poules sont des dinosaures.
Je savais pas que les poules étaient des dinosaures.
Et pourquoi est-il important de les sauver ?
Elles sont nécessaires.
Bah parce qu'une tortue c'est jolie, c'est mignon. Elle a besoin de vivre comme tout le monde. Hein.
Oui.
Ah, voilà.
Bah parce que ça fait partie de
la biodiversité. Et du coup, j'imagine que dans la chaîne alimentaire de tous les animaux et de nous, ça participe au bien de la planète.
Exactement. Et elles sont trop mignonnes.
Les tortues peuvent prendre des objets flottants, comme les sacs plastiques, pour des méduses et donc mourir d'étouffement en essayant de les avaler. Les engins de pêche sont aussi responsables de la disparition des tortues. Les détritus sur les plages constituent un piège pour les petites tortues et les empêchent de gagner la mer. Les taches de pétrole peuvent également empoisonner les tortues.
Les solutions qu'on peut apporter aux tortues marines seraient de dépolluer les océans, réduire l'usage des pesticides, encadrer l'usage des substances dangereuses et il ne faut pas jeter des déchets dans la mer.
Prolongeons cette émission avec Matteo et Nolan qui nous ont préparé un quiz.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter des questions sur le braconnage et il y aura trois réponses possibles à donner.
Alors tout d'abord, le braconnage, c'est quand quelqu'un chasse ou pêche illégalement un animal ou même le capture.
Alors, première question. Pourquoi les braconniers chassent-ils les éléphants et les rhinocéros ? Réponse A, la peau. Réponse B, leur défense. Réponse C, leur langue.
Il peut y avoir deux réponses ou pas du tout ?
Non.
Pour leur défense ?
Oui.
Ouais, bravo.
Alors, deuxième question. Quelle est la peine maximale engendrée pour braconnage ? Petite A, 3 ans et 150 000 euros d'amende. Petit B, 1 an et 75 000 euros d'amende. Or petit C, 200 000 euros d'amende.
C.
Non, c'était le A. 3 ans et 150 000 euros d'amende.
Troisième question. Quel est l'animal le plus braconné ? Réponse A, l'ompala blanc du Brésil. Réponse B, le crocodile. Réponse C, l'éléphant d'Afrique.
Bah, l'éléphant.
L'éléphant d'Afrique, oui.
Quatrième question. Que font les braconniers avec les animaux ? Petit A, ils les tuent. Petit B, il les capture. Petit C, les deux réponses sont bonnes.
Ouais, je dirais la C.
Bravo, c'était la C.
Question 5. Quel est le continent le plus touché par le braconnage ? Réponse A, l'Amérique. Réponse B, l'Afrique. Réponse C, le monde entier.
J'aurais dit la B.
Oui, ça.
Sixième question. Quels sont les animaux les plus braconnés de France ? Réponse A, le lapin et le faisan. Réponse B, les ours et les loups. Réponse C, les sangliers et les cerfs.
La B ?
Ouais, c'est ça, les ours et les loups.
Question 7. En France, le braconnage existe depuis quand ? Réponse A, 1844. Réponse B, depuis toujours. Réponse C, 1944.
Réponse B ?
Non, c'était la réponse A.
Le braconnage existe un peu depuis toujours, mais c'est en 1844 qu'une loi a été votée, comme quoi seuls les propriétaires de terrain, avaient le droit de chasser dessus. Huitième question. Quel est le vrai nom de Rouget le braconnier? Petit A, Jean Rouget. Petit B, Louis Rouget. Petit C, on le connaît pas.
Ah, le C, on connaît pas.
Non, c'était le B, Louis Rouget. Il est né en France en 1817 et il est mort en Guyane en 1858. En 1854, pendant qu'il était en train de braconner et qu'il avait réussi à attraper un lièvre, deux gendarmes venirent pour l'arrêter et pris de panique, il tua un des gendarmes. Et du coup, il est envoyé en Guyane, il est exilé, comme un peu de la prison, et il fait du travail.
Et enfin, pour finir, la question 9. Avec quoi suive-t-on, nous les animaux, pour les protéger du braconnage? Réponse A, avec les traceurs GPS. Réponse B, avec des hélicoptères. Réponse C, en les cherchant dans la nature.
Ah !
Oui, c'est ça. Car l'armée, ça permet de les suivre pour éviter le braconnage. Avec des traceurs.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir écoutés.
Pour finir, voici Alicia, Florine, Maëlle et Janelle qui vont nous faire une interview sur l'abandon des animaux.
Alors oui, nous allons vous parler de l'abandon des animaux. Nous allons d'abord vous passer le micro-trottoir que nous avons réalisé avec les personnes du lycée, dans lequel nous leur avons posé deux questions.
Que pensez-vous de l'abandon des animaux?
Alors, personnellement, je pense que c'est une chose assez grave, qui touche malheureusement beaucoup d'animaux dans le monde, notamment dans la France, qui est le pays qui a reçu le plus grand nombre d'animaux, d'abandon d'animaux, dans le monde. Je m'égaye un peu, excusez-moi. Et donc c'est quelque chose qui est malheureux et qui devrait s'arrêter très vite.
Je trouve que c'est honteux car les animaux n'ont rien demandé aux personnes qui les adoptent et que les abandonner. Voilà.
Okay. La deuxième question c'est selon vous quelle est la principale cause des abandons?
La principale cause pour moi je pense c'est les personnes qui achètent des animaux et qui les offrent à des personnes qui ne sont pas prêtes à en avoir. Et beaucoup les départs en vacances, car les personnes ne peuvent pas les emmener.
La principale cause d'abandon, en France en tout cas, je dirais que c'est surtout l'été et le confinement notamment qui a eu lieu en 2019 à cause du Covid-19. C'est quelque chose qui malheureusement a touché beaucoup de gens, qui les ont poussés à acheter des animaux, à acheter beaucoup d'animaux, et qui finalement ne pouvaient pas s'en occuper, donc les ont rejetés ou abandonnés dans la nature.
Alors, moi je vais me présenter. Je suis Abel et je suis technicien animalier au lycée horticole dans le service animalerie. Alors, l'abandon, déjà je trouve ça très cruel. Après, je pense que ça résume bien le fait de dire que c'est assez difficile. En fait, c'est facile de prendre un animal, mais c'est aussi facile de s'en débarrasser. Donc les humains qui font ça, ils pensent pas du tout, ils se mettent pas à la place de l'animal et ils se disent tant pis, je m'en débarrasse. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, la principale cause, c'est le côté financier. Je pense qu'il y a plein de propriétaires, enfin de gens, qui se disent que prendre un animal, en fait, ils prennent l'animal, mais ils ne voient pas tout le côté financier qu'il y a derrière, c'est-à-dire les visites chez le vétérinaire pour les vaccins, les vermifuges, les antiparasitaires. Les potentielles opérations de stérilisation, surtout chez le chat. Et ça a un coût énorme. Et en fait, ils se disent que non, ils ne voient pas ce côté-là. Et donc, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et le truc, c'est que ça coûte énormément cher. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent des animaux, mais en fait, ils ne s'imaginent pas, combien ça peut coûter au niveau de la nourriture aussi. L'alimentation, c'est pas n'importe quoi. L'alimentation, c'est la base de la vie de l'animal. C'est le bien-être, c'est la santé avant tout qui passe par la bonne alimentation. Et une bonne alimentation, ça coûte un peu. Et il ne faut pas prendre n'importe quoi. Voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais je vous en prie.
Ce que nous pouvons retenir de ce micro-trottoir, c'est que les gens sont d'accord sur le fait que les adoptants doivent se rendre compte qu'un animal est une responsabilité financière et que ce n'est pas juste une peluche. Il faut savoir que chaque année, d'après le site Animaux Santé, la SPA sauve chaque année environ 45 000 animaux. Et d'après la dépêche du 27 mai 2024, à l'échelle mondiale, 362 millions de chiens et de chats sont sans foyer. Alicia, peux-tu nous dire quelles sont les raisons des abandons ?
Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens abandonnent leurs animaux sont souvent liées aux problèmes financiers, aux problèmes de transport, aux problèmes de nourriture, aux problèmes de santé trop importants ou d'autres déplacements qui incluent souvent et surtout les vacances.
Maintenant, nous allons vous faire passer une interview d'une personne qui travaille au refuge de Sacé.
Nous, on a un refuge privé. Donc on dépend de la Confédération de Lyon. Donc en fait, la Confédération de Lyon, elle regroupe presque 260 refuges, si je dis pas de bêtises. C'est eux qui communiquent, qui font de la communication et qui sensibilisent les propriétaires d'animaux. Après, nous, directement au sein du refuge, on fait quelques événements pour sensibiliser les gens et ça s'arrêtera là. Et après, pour faciliter l'adoption, on travaille les chats. Donc on a un éducateur qui vient sur place et qui bosse les chats.
D'accord. Et comment se passe une adoption pour être sûr qu'il n'y a pas d'abandon après, du coup ?
Tous les chiens sont identifiés, enfin tous les chiens et chats sont identifiés. Donc ils sont identifiés dans un premier temps au nom du refuge. Et puis lorsqu'on fait l'adoption, on demande des justificatifs de domicile et d'identité. Et on fait le changement de propriétaire directement sur la puce du chat ou du chat.
Quelle est l'histoire du refuge de Sacé ?
Oula, l'histoire du refuge de Sacé. Moi, je suis là que depuis janvier, donc je ne la connais pas par cœur. Mais avant, il me semble qu'ils étaient implantés sur Blois. Et donc, il a ensuite été déménagé sur Sacé en 1993. D'accord. Et depuis, on n'a pas bougé.
Quels sont les animaux les plus abandonnés ?
Chiens et chats, c'est à peu près kiff-kiff. Il n'y a pas une grosse différence. Les chats, après, c'est plus par saison. C'est surtout l'été, lors des périodes des chaleurs. Et les chiens, c'est toute l'année. Mais en termes de chiffres, c'est kiff-kiff.
Comment on peut sensibiliser les gens ?
Oula, bah, il faut peut-être les responsabiliser sur le fait qu'un animal, c'est un certain entretien, c'est un certain investissement. Et qu'après, ils ont chacun leur comportement, comme les humains. Donc, il faut faire en conséquence d'eux. Donc, ce n'est pas une peluche. Il faut faire au moins de conscience que chaque être peut être différent.
D'accord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et avoir répondu à nos questions. Mais Alicia, qu'est-ce que tu penses pour les solutions ?
Alors, moi, je pense que pour éviter le plus, déjà les adoptions coup de cœur, qu'il faudrait essayer de les adoptions responsables, genre parce que c'est essentiel car il est important de bien réfléchir avant d'accueillir un animal en tenant compte des besoins, des engagements à long terme, des coûts associés car en fait on ne se rend pas forcément compte mais posséder un chat c'est beaucoup de coûts. Derrière il y a les vétérinaires, il y a les soins pour les animaux, pour l'animal en lui-même ou encore tout ce qui est voyage etc. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, la plupart des animaux qui sont abandonnés c'est à cause des coûts des vacances, parce que ça coûte un peu cher, etc. Mais derrière ça, il y a aussi des sanctions si les animaux ils sont retrouvés abandonnés, parce qu'ils ont des puces et tout. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison, à 45 000 euros d'amende.
Luttons contre ce fléau et ses causes, et pour le bien-être animal.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Nous nous retrouverons le 17 janvier pour une émission en direct avec les élèves de première. Quant à nous, on se retrouvera la semaine du 24 février pour une émission sur les droits des femmes.
Bye bye, bye bye, au revoir.